Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 19 de la saison 2 sur le thème du célibat et de l'amitié. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Camille. Bonjour Camille.
Bonjour Marie.
Je précise que c'est un prénom emprunté pour respecter ton anonymat. Alors Camille, comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas ?
Alors je dirais que je suis une femme, j'ai 27 ans, je suis blanche, asexuelle, athée aussi. Voilà, j'aime pas trop me définir en fait.
Très bien, merci beaucoup. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter de célibat et d'amitié au pluriel. Est-ce qu'on a plus d'amis quand on est célibataire ? Comment on fait lorsque tous nos amis sont en couple, sauf nous ? Les amitiés célibataires sont-elles plus belles et plus fortes que les autres ? Bref, on va se poser plein de questions avec toi, Camille, qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je voulais te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ?
Alors, être célibataire, pour moi, je dirais, c'est ne pas être dans une relation de couple telle que normée dans la vision du couple. Donc, par exemple, ça correspondrait... Enfin, il y a plein d'autres relations qui rentreraient dans la définition de célibataire. Pour moi, célibataire, c'est plus l'exclusion de cette notion très normée du couple tel qu'on l'a dans notre société. Donc, c'est plutôt la définition, l'exclusion du couple. Mais pas des autres relations. Que ça soit amoureux, sexuel, peu importe. Voilà.
Depuis quand tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ?
Depuis toujours, j'ai jamais été en couple.
Et t'as dit ton âge au début ou pas du tout ?
27 ans.
Ah, comme moi.
Enfin, si, j'ai été en couple deux fois, deux semaines au lycée, mais je le compte pas. Enfin, pour moi, c'était pas un couple. Voilà.
Est-ce que tu relis bonheur et couple ?
Bah, du coup, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, je peux pas me baser sur... Enfin, si, je peux me baser pour mon expérience où je considère être relativement heureuse sans être en couple. Et en tout cas, moi, je ressens pas du tout le besoin d'être en couple pour être heureuse. Et ensuite, quand je vois plutôt mes amis, ma famille, je vois des gens en qui le couple, ça apporte du bonheur. Donc, là-dessus, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je vois aussi beaucoup de gens en qui le couple ou la recherche de couple apporte plutôt du malheur. Donc, non, je ne relis pas du tout ça. Je pense que ça peut l'apporter. Mais alors, je ne le vois pas du tout comme une nécessité. Et plutôt, le fait de le voir comme une nécessité, je vois que ça rend les gens malheureux. Voilà.
Comment évalues-tu ta santé mentale aujourd'hui ? Tu as déjà commencé à répondre.
Pas top.
Ah, non.
En fait, y a plusieurs choses, en fait. Je dirais, moi, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel. Donc, c'est assez peu connu. C'est un peu le même principe qu'un symptôme prémenstruel pour celles et ceux qui connaissent pas. En gros, c'est le fait d'être très déprimé, fatigué. On va résumer ça à peu près la semaine avant les règles. Et un trouble dysphorique prémenstruel, c'est à peu près le même principe, mais fois 1000. Donc, c'est des symptômes... en tout cas dans mon cas uniquement psychologique, mais qui peuvent être comparables à celles d'une dépression sévère pendant la semaine avant les règles. Donc en gros, j'ai ça depuis, je dirais, 3 à 5 ans, et j'ai vraiment compris ce qui se passait il y a environ un an et demi, donc ça, je le gère de mieux en mieux, mais ça fait que par définition, moi je suis quelqu'un qui a des hauts et des bas assez violents, mais aujourd'hui, je le gère plutôt bien, juste je peux pas le supprimer, et je voudrais pas forcément le supprimer, mais voilà, ça fait que moi, ça m'alarme pas, mais je peux avoir des bas assez violents, et c'est ma façon d'être. Et là, en dehors de ça, il se trouve qu'il y a là un mois, j'ai fait un bon gros craquage nerveux qui a été provoqué par le travail, je dirais, mais je pense pas que c'en est la cause unique. Et là, mon projet actuel, c'est de prendre beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'aller mieux. Mais en fait, je considère que je vais bien dans le sens où j'ai passé la phase d'acceptation et là, je prends soin de moi. Mais clairement, je pense que là, j'ai une grosse fragilité psychologique, mais ça m'empêche pas d'être heureuse. Et je pense que le fait d'en être consciente et justement d'essayer de travailler dessus, c'est nécessaire. Et qu'au contraire, quelque part, ça me rend plus heureuse que si j'avais juste un voile devant les yeux et que voilà.
Ok. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas ?
Pareil, oui et non. Moi, je dirais que non. Parce que vu que j'ai toujours été célibataire, je ne vais pas comparer la situation à quand je suis en couple. Après, je vois bien que si j'étais en couple, je paierais moins cher en loyer, par exemple. Mais vu que j'ai toujours... j'ai toujours habité seule. J'ai pas mal habité en coloc, chez mes parents, si, ça. Mais vu que j'ai jamais habité en couple, je ne compare pas le poids d'un loyer à si c'était en couple. Donc moi, ça ne me paraît pas nécessairement plus... Enfin, je vois plus ça comme une norme, en fait. Donc, j'ai pas l'impression que ça pèse sur ma situation financière. Là où je le ressens de manière plus évidente, c'est quand je voyage. Par exemple, les chambres d'hôtel, ça fait quand même super chier de les payer tout seul quand tu trouves pas d'auberge ou de camping ou de ci ou de ça. Et là, c'est le moment où je le vois le plus. Ou par exemple, plein de trucs qui sont vraiment taillés pour les couples. Ou des trucs à la con, du genre les avantages d'entreprise où t'as le droit à... un billet de cinéma réduit et un deuxième pour ton conjoint et d'où tu peux pas inviter un ami. Enfin, ça, mais c'est des petits détails comme ça, mais je dirais pas qu'au jour le jour ça pèse sur ma situation financière.
Ok, la question suivante, c'est comment vis-tu ta sexualité en célibataire, mais peut-être qu'on peut te poser la question comment vis-tu ton asexualité en célibataire.
Pareil, il y a un peu plein de sortes d'asexualité. Moi, j'aime pas forcément me mettre dans les cases, donc je ne sais pas comment me définir, mais moi, en tout cas, mon asexualité, c'est que je le définirais dans le sens où je n'ai pas de désir et d'attirance sexuelle de façon générale. Donc, pour moi, c'est un peu... Je ne dirais pas que c'est un non-sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup lire des choses, écouter des choses sur la sexualité, en parler avec des amis. Mais ouais, voilà, je disais ça à une amie et je pense que ça permet de bien comprendre ma position. En fait, pour moi, la sexualité, c'est comme sur beaucoup de choses, c'est un peu comme un daltonien. C'est comme si quelqu'un qui est daltonien, on lui fait bah, ça c'est du rouge et ça c'est du vert, et c'est important pour les gens, et c'est une différence, et ça peut un peu définir les choses. Et bah, quand t'es daltonien, tu le vois pas, mais tu sais bien que c'est important pour les gens, donc tu vas un peu agir en fonction. Bah, moi, la sexualité, c'est un peu ça. Je sais que c'est quelque chose d'important dans notre société, je sais que c'est quelque chose d'important pour beaucoup de gens, qui va définir beaucoup de choses sur les relations. Mais moi, bah, déjà, j'ai pas d'attirance pour les gens, donc je vais, même dans mon raisonnement social, ça va. Je sais quelque part, j'essaie de l'intégrer, mais c'est pas du tout une évidence pour moi. Et même, je vois, enfin, on me dit souvent en soirée, non, mais lui, il te drague à fond. Je suis là, ah ouais, enfin, moi, je capte rien, tu vois, enfin, vraiment là-dessus. C'est plus genre, j'essaie d'adapter ma compréhension du monde en intégrant ça, mais pour moi, c'est genre, ouais, je suis daltonienne de la sexualité, je dirais. Donc, bah, je le vis bien, parce que pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Enfin, c'est pas totalement un non-sujet, mais voilà, c'est plus un sujet de curiosité, et. Mais voilà.
Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui sur ton célibat ?
Pas trop, franchement. Parce qu'en fait, au-delà de mon asexualité, moi, j'ai toujours eu un caractère assez solitaire, assez indépendant. Donc même si je suis quelqu'un de très sociable, j'ai toujours beaucoup aimé la solitude. Et en fait, pour moi, vu que c'était un non-sujet, bah, forcément, je me suis posé des questions hein, à des moments, en me disant bah, « faudrait peut-être que je sois en couple comme tout le monde ». J'ai essayé vite fait au lycée, là je disais deux fois deux semaines, j'ai vite vu qu'en fait, ça me faisait chier, ça me correspondait pas, qu'il y avait plein d'autres trucs qui m'intéressaient vachement plus. Donc au final, bah, par curiosité, parfois je me disais, bah, faudrait que j'essaye un peu, ça me faisait chier. Il y avait d'autres trucs qui m'intéressaient beaucoup plus, donc ça sortait de ma tête. Et en fait, je sais pas, j'ai jamais été trop sensible au regard des autres là-dessus, parce que moi, je voyais bien que je m'épanouissais comme ça. Et surtout, j'ai vu plein de potes se rendre malheureux en couple, où je les voyais de l'extérieur, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, quoi ? Ou se rendre malheureux à chercher absolument à être en couple. Et du coup, je pense que ça m'a un peu confortée sur le regard des autres. Ça ne me pèse pas trop. Et je pense que ce qui facilite beaucoup la chose, c'est que bah, j'ai la chance d'avoir une famille où il n'y a vraiment pas du tout de pression là-dessus. On ne me fait pas de remarques au repas de famille. On ne me demande pas quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un. Et mes potes, bah, après, ces potes, on les choisit aussi. Mais je pense que j'ai eu la chance de tomber aussi sur des gens toujours bienveillants et... Donc ouais, parfois, on peut un peu me renvoyer le truc de « t'es la meuf seule », mais vu que, je sais pas, j'ai un caractère qui est un peu atypique, on me renvoie pas forcément trop là-dessus, ou en tout cas, je suis pas spécialement sensible.
Ok, bon bah on passe au thème du jour, l'amitié. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème ?
Bah parce que c'est du coup c'est un peu des débats que j'ai eu avec des amis, ou bah par exemple des amis très proches qui, quand ils étaient en couple, un peu du jour au lendemain. Par exemple, une amie avec qui j'avais pas mal voyagé, et je sais plus, bah, elle s'est mise en couple, j'étais super contente pour elle, hein, elle avait l'air heureuse, il n'y avait pas de souci. Mais je sais plus, je lui disais, ah bah tiens, on pourrait prévoir tel voyage, elle me disait, bah non, je peux pas partir plus de 5 jours là sans lui. Et j'étais genre, bon, moi j'ai un peu du mal à comprendre ça, mais quelque part, je me dis, bon, bah écoute, pourquoi pas, enfin ça me frustrait un peu, et du jour au lendemain, quand elle s'est séparée, t'es genre, viens, on fait ci, on fait ça, j'étais genre, écoute. Enfin, quand t'étais en couple, t'avais plus le temps, et là, tout de suite, faudrait. Et quand tu lui dis, bah non, moi là, ça m'arrange pas, parce que si, parce que ça, elle te fait, ah, oh, c'est bon, tu pourrais faire des efforts. J'étais genre, oui, mais toi, quand t'étais en couple, elle fait, oui, mais c'est pas la même chose, je suis en couple. Et en fait, ça mène. Ou même un truc qui m'a toujours énervée, en soirée. Imagine, tu pars en soirée dans un truc où tu connais pas trop de monde, avec un pote ou une pote. Et c'est en quelque sorte accepter que s'il repère quelqu'un qui lui plaît, ou que quelqu'un qui va choper quelqu'un ou quoi, en gros, qu'il t'abandonne un petit peu dans la soirée. Et ça a toujours été accepté, genre ouais, mais si c'est pour quelqu'un qui te plaît ou pour choper, c'est ok en fait, c'est pas grave, tu dois l'accepter. Et moi, ça m'a toujours saoulé ces trucs-là où. Bon, déjà ça, et je sais plus, une fois, j'avais une discussion avec une amie qui me disait quelqu'un qui avait été en couple. Un peu tout le temps au lycée, et qui avait vraiment un peu les relations pansement, tu vois. Quand elle avait eu une rupture qui avait été difficile, bah, elle s'était mise direct avec quelqu'un d'autre, elle me disait, bah, tu comprends, j'avais besoin d'être avec quelqu'un. Et en gros, et ensuite, elle avait été célibataire au milieu de ses études, mais c'est la première fois qu'elle était vraiment célibataire, qu'elle me disait, bah, en fait, je réapprends à donner de l'importance à l'amitié. Et qu'elle me disait qu'en fait, pendant hyper longtemps, elle avait vraiment négligé l'amitié, pour elle, c'était des relations qui valaient moins que l'amour, etc. Et qu'elle me disait, bah, en fait, je revois complètement ça. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des amis, dans le sens où, moi, par exemple, je suis asexuelle, mais je tombe amoureuse. Enfin, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de tomber amoureuse. Et les gens avec qui je suis tombée amoureuse, Enfin, c'était une fois une fille et une fois un mec. En fait, aujourd'hui, c'est des amis extrêmement proches. Et pour moi, il n'y a pas forcément de distinction nette entre l'amour et l'amitié, vu qu'en plus, moi, l'amour, bah, je ne peux pas avoir d'attirance sexuelle. Et je sais plus, en discutant avec cette amie qui m'a dit, bah, en fait, en étant célibataire, j'ai commencé à accorder plus d'importance à l'amitié. Moi, je me suis dit, mais tiens, est-ce que moi, c'est ça qui fait que... Enfin, je considère que j'ai la chance d'avoir des relations amicales hyper fortes et des gens hyper importants dans ma vie et avec qui j'ai vraiment une relation hyper forte. Et je me dis, est-ce que c'est le fait d'avoir toujours été célibataire et en tout cas de pas accorder d'importance aux relations de couple qui a fait que j'ai accordé plus de temps et plus d'importance à mes amitiés et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des amitiés que j'ai l'impression sont en tout cas super fortes et que j'ai la chance d'avoir ça et que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, voilà, il y a du hasard, il y a de tout. Hein. Mais voilà, moi, c'est plutôt un peu tout un fouillis de tout ça qui fait que c'est un sujet qui m'intéresse.
Ok, je pense qu'on a même plus besoin de se poser plus de questions. Je pense que tu as absolument tout dit. Mais bon, je vais quand même poser les autres questions que j'avais prévues. Et voilà, tu vas me dire que tu m'as déjà répondu. Et ma question suivante, c'était, y a-t-il une différence dans nos amitiés que l'on soit célibataire ou en couple? Oui.
Après, ça dépend des gens, franchement. Enfin, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de manières d'être en couple. Il y a des gens qui, quand ils sont en couple, ils peuvent plus rien faire sans leur copain, copine. Il y a des gens, au contraire, ils accordent beaucoup d'importance à garder un peu une vie sociale indépendante. Ça dépend vachement. Et il y a des gens, le fait d'être en couple, ils accordent pas moins d'importance. Enfin, ça dépend vraiment des gens, mais moi, c'est un peu ce truc qui m'avait interrogée. Et aussi le fait que, de plus en plus, je pense, c'est en grandissant aussi. Enfin, moi, j'aime bien continuer à utiliser le mot grandir, même si on a 27 ans. Je considère qu'on grandit toujours. Et c'est pas par peur de vieillir. Enfin, bref, je digresse. De plus en plus, quand je suis avec des soirées ou des week-ends ou quoi, tout le monde est en couple et moi, je suis meuf seule, tu vois. Et ça me dérange pas trop, mais on sent qu'il y a de plus en plus ce raisonnement de « on invite un couple d'amis ». Et du coup, parfois, t'es un peu genre « bah ouais, mais on peut aussi être... être » et encore une fois, en fait, moi, j'ai souvent... Enfin, je suis quelqu'un qui a... Enfin, je peux avoir un caractère un peu étonnant. Je fais des choix qui sont assez étonnants dans ma vie. Et donc, je passe souvent pour la meuf un peu atypique, un peu bizarre. Et donc, du coup, vu que j'ai un peu cette image-là, j'ai l'impression que quelque part, ça va justifier tout. Enfin, il n'y a pas besoin de justifier. Mais du coup, les gens se posent moins de questions parce que j'ai un peu cette image de la meuf bizarre mais marrante. Enfin, que je ne recherche pas forcément, mais quelque part, c'est une image qui me colle un peu. Hein. Mais je sens que c'est quelque chose qui pose question. On se demande tout le temps, ah, mais du coup, tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un, mais tu ne cherches pas quelqu'un. Les gens ne comprennent pas que tu ne cherches pas quelqu'un, mais que quelque part, ça devient nécessaire dans les amitiés. Et c'est vrai qu'une question que je me pose pas mal, c'est qu'au final, plus on grandit, plus les gens vont être... Pas forcément, mais j'ai l'impression que plus on grandit, plus les gens sont souvent en couple et plus les gens vont commencer à fonder des familles. Et du coup, je me dis, comment tu trouves ta place en restant célibataire dans un monde où la plupart des gens font des familles? Et après, je comprends très bien que quand t'as des enfants, t'as moins de temps aussi, hein, ou d'une autre façon. Mais du coup, c'est un peu une question que je me pose pour l'avenir, en fait.
Ouais, moi aussi, je suis super inquiète parce que quand je vois les générations précédentes, genre mes grands-parents ou mes parents... ils avaient des amis quand ils étaient jeunes et puis tout d'un coup maintenant ils ont plus vraiment d'amis ou des gens qu'ils voient genre une fois par an
oui, c'est ça.
Ou même une fois tous les 10 ans ils sont en mode oh j'ai retrouvé cet ami sur Facebook et je trouve ça hyper triste du coup moi quand enfin même aujourd'hui je pense que je croyais que quand on grandissait on perdait ses amis en fait et qu'on devenait un couple et qu'on n'avait plus d'amis alors qu'en fait ça n'a aucun sens et toutes mes amies sont en couple enfin sauf une peut-être. Et en couple hétérosexuel, et genre je suis absolument désespérée, parce que du coup ces personnes-là ont beaucoup moins de temps à m'accorder, en même temps moi non plus j'ai pas beaucoup de temps à accorder à mes amis, mais du coup elles me comprennent pas, enfin je veux dire elles comprennent rien au célibat, la plupart elles ont jamais été célibataires de leur vie, elles ont enchaîné les relations, et voilà maintenant je me tape les mariages, les enfants, et encore on a que 27 ans donc ça va s'accélérer, et mes parents qui me disent... Ma mère qui me dit tous les jours, c'est quand que tu te mets en couple? Et du coup, les amitiés, c'est totalement un truc, j'ai l'impression, qui passe au second plan quand on grandit. Alors que, vraiment, ça n'a pas de sens.
Mais c'est ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça me donne, en tout cas, c'est que ce soit un couple ou les amitiés, en fait, l'amour dans le sens large, parce que pour moi, l'amitié, c'est de l'amour aussi, ça demande une implication émotionnelle, une implication sociale, et donc du temps, quelque part. Et qu'en fait, c'est considéré comme une évidence et OK. Que l'amour de couple, c'est supérieur à l'amitié. Et donc, du coup, c'est considéré comme OK d'avoir une disproportion totale dans l'implication émotionnelle, sociale, de temps, tout ce que tu veux, dans le couple. Et je me dis, en fait, c'est pas forcément... Quelque part, je peux le comprendre. Si la personne, c'est ce qui le rend heureux, bah tant mieux. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que ça soit posé comme une évidence et que personne ne remette ça en question, alors que ça rend clairement pas tout le monde heureux. Et du coup, bah moi, je me dis... par exemple, sur les amis, on peut pas garder contact avec tout le monde dans ses amis qu'on a croisés dans sa vie. Hein. Mais moi, je fais souvent un peu la distinction entre... Bah, lui, c'est mon pote, mais si je le recroise et tout, je serais hyper content. Mais je vais pas forcément faire l'implication émotionnelle de temps tout de garder contact. Et lui, j'ai vraiment envie de garder contact, donc je vais prendre du temps pour. Et en quelque sorte, quand on est célibataire, ça laisse plus de temps et d'implication émotionnelle pour ceux qui ont envie de le recevoir, pour entretenir des amitiés qu'on perd pas en grandissant. Mais ouais, c'est compliqué, clairement, quand tout le monde est en couple et a des enfants et se marie. Et...
Donc tu penses que c'est plus facile d'entretenir ses amitiés lorsqu'on est célibataire et de se faire des nouveaux amis?
Bah ouais, d'une certaine façon. Enfin, en fait, de se faire des nouveaux amis, même peut-être pas forcément, parce qu'au final, quand on est en couple, on rencontre aussi par le couple. Mais peut-être de les entretenir, bah forcément, t'as plus de temps, en fait, pour tes amis, pour l'amour que tu leur portes aussi, pour entretenir ça, pour prendre soin d'eux, pour être présent quand ils en ont besoin, pour passer du temps ensemble. Mais après, faut tomber sur quelqu'un qui a envie de recevoir ça et que ça soit... Enfin voilà, pour créer une relation équilibrée, en fait. Enfin, moi, je vois vraiment les amitiés comme des relations à entretenir... Enfin, aussi, sur les amis, bah, t'as les amis que t'aimes bien voir en groupe, et moi, les amis proches, en tout cas, j'ai vraiment besoin d'avoir une relation individuelle où tu peux passer du temps à deux, quoi. Enfin, c'est pas... J'aime beaucoup passer du temps avec des groupes d'amis, et c'est une ambiance différente, et c'est génial aussi, hein. Mais les amis proches, moi, j'ai besoin de pouvoir avoir du temps à deux et de créer cette relation-là. Et ce qui peut être un peu négligé aussi, en grandissant, forcément, tu connais plus de monde. Enfin, quelque part, si tu accumules les relations, on va dire, et que tu veux essayer de les garder, bah, tu connais plus de monde, donc, et puis tu as moins de temps, donc tu vois plus les gens en groupe, donc tu prends moins de temps pour entretenir cette relation individuelle quelque part. Et peut-être, ouais, si tu es célibataire, tu as peut-être plus de temps pour ça et plus d'envie, mais c'est pas évident parce que quelque part, il y a aussi ce côté de la société qui nous isole. Dans cette vue de célibataire, il n'y a rien qui m'énerve plus que l'expression vieille fille, par exemple. Mais bon.
Ouais, puis il y a aussi ce truc que on peut certes, quand on est en couple, voir ses amis, par exemple, aller au ciné, aller au resto, faire des trucs chez l'un, chez l'autre. Mais par exemple, partir en vacances ou faire des trucs plus longs ou passer du temps dans l'appart de l'autre, genre, personne ne fait ça en couple.
C'est ça.
Enfin, si, il y en a qui le font, mais il y a beaucoup moins d'opportunités parce que les gens, ils vont préférer partir en vacances avec leur partenaire. Et ils vont pas nous inviter pour qu'on tienne la chandelle pendant les vacances.
C'est ça. Ou même, au-delà même des vacances, du temps social, etc. Enfin, parfois, moi-même, moi, ce qui me pose le plus de questions sur le célibat, et qui, je dirais, qui me fait le plus peur, c'est que, je me dis, peut-être que j'aurais envie de faire des projets de vie où tu construis des projets à plusieurs. Et pas forcément un projet de vie, fonder une famille ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si je vais fonder une famille ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que, construire des choses dans ta vie, et parfois il y a des choses que j'ai envie de faire à plusieurs, mais les gens ont beaucoup de mal à se projeter sur ce genre de trucs autrement que dans le couple, et moi c'est vraiment plus ça qui me pose question.
Oui, par exemple habiter dans la même ville ou habiter dans le même quartier ou dans la même maison, en fait on pourrait imaginer, moi j'ai envie de vivre avec ma sœur ou avec ma meilleure amie, mais peut-être que d'autres amies elles vont juste projeter de vivre avec leur mec à l'autre bout du monde ou avec leur meuf, et du coup on les perd entre
après vous. Ça existe de plus en plus dans le sens où, enfin moi je vois de plus en plus autour de moi en tout cas des colocs où vraiment c'est pas juste des colocs étudiantes où c'est perçu comme quelques années comme si, des gens qui ont vraiment envie de vivre en coloc et de créer quelque chose comme ça. Et je vois, je pense à une très bonne amie notamment qui elle vit en coloc et vraiment sa coloc c'est sa famille, mais vraiment au sens propre du terme, c'est pas juste une expression parce que c'est des bons potes à elle, c'est vraiment sa nouvelle famille et ils créent vraiment quelque chose tout ensemble parce que c'est trois filles du coup. Mais je trouve ça super beau par exemple ça.
Ouais, mais moi par exemple j'avais deux amies qui vivaient en coloc et qui étaient super potes et puis elles sont toutes les deux déménagées pour emménager avec leur mec.
Ouais, clairement. Après, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre parce qu'il y a des couples qui sont hyper fusionnels et un jour ils vont se séparer. Et au final, une coloc aussi, ça peut se séparer quelque part. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a pas vécu un truc fort pendant un moment et qu'on...
Oui, puis moi, j'y crois pas du tout à ces personnes qui vivent dans le même appart, en couple, dans la même chambre, sur la durée. Enfin, je sais que mes amies, elles vont pas durer longtemps avec des mecs cis hétéros en plus. Enfin, y a aucune chance que ça fonctionne.
Moi, je sais que là-dessus, je tiendrai pas deux secondes parce que, enfin, je suis quelqu'un, j'ai un caractère quand même assez solitaire et social en même temps, mais j'ai vraiment besoin de cet équilibre. Et j'adore mes potes, hein, j'adore accueillir, mais déjà, franchement, quand j'ai une pote qui vient trois jours chez moi, au bout d'un moment, j'ai besoin d'espace. Et genre, j'ai des potes qui... Enfin, il y en a, ils adorent dormir avec d'autres personnes sans forcément faire des câlins ou quoi que ce soit, mais qui aiment bien une présence, quoi. Et moi, genre, juste partager mon lit... Enfin, je veux dire, si c'est nécessaire pour partir en week-end, il n'y a aucun souci, je suis pas gênée ou quoi, mais c'est juste que moi, je préfère largement dormir seule, quoi. Mes potes, ils comprennent pas trop. Parfois, je suis genre, désolée, en fait, je vais dormir par terre dans le salon, parce qu'en fait, j'ai juste envie de dormir toute seule, parce que j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma solitude, j'ai...
Et j'ai besoin de mon sommeil.
Ouais. Et ouais, franchement, ouais, je pense que je peux être un câble assez vite, hein, de toute façon.
Bon, après, il y a aussi le truc, on peut avoir des amis qui sont célibataires. En gros, comment on fait ? Moi, par exemple, toutes mes amies ou presque sont en couple. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de mon côté ? Comment on fait pour se faire des amis célibataires, en fait ? Ça existe, les personnes célibataires, regardez dans Sologamy, par exemple.
Ouais. Bah après, une personne n'est pas célibataire à vie ou en couple à vie, mais ouais, clairement. Après, il y a aussi la sociabilité. Je pense que, au final, dans ta sociabilité de célibataire, peut-être que tu vas à terme plus facilement rencontrer des célibataires, parce que c'est les gens qui ont plus de temps pour le même genre d'activité, plus intéressés par certains trucs. Donc, mais après, un célibataire, ça peut devenir en couple, et une personne en couple, ça peut devenir célibataire. Donc, ouais.
Donc, toi, tu choisis pas du tout tes amis en fonction de ça ?
Bah, si, non. Non, clairement non, parce que tu vois, là, si je regarde mes potes actuels dont je suis le plus proche, t'en as une partie qui viennent du collège-lycée, une partie qui viennent de mes études, et une partie, on va dire, de mon travail ou d'assos dans lesquels j'ai été. Et c'est des gens, en fait, la plupart, sauf pour mon travail que j'ai rencontré plus récemment, bon, encore pas que, mais bref, c'est des gens, la plupart, que j'ai rencontrés complètement autrement ou depuis longtemps, bien avant qu'aujourd'hui, ils soient en couple ou en célibataire, en fait. Après, peut-être que, d'une certaine façon, le fait qu'ils soient en couple ou célibataire, ça va influer sur notre relation à terme, mais j'ai pas spécialement l'impression non plus.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ouais, mais du coup, ça me pose la question, parce que moi aussi, mes amis, je me laissais faite il y a assez longtemps. Et je me dis, même si aujourd'hui, on est toutes les deux célibataires, pourquoi on a aussi plus de mal à se faire des vraies amitiés en étant adultes ? Est-ce que c'est à cause du Covid ? Est-ce que c'est à cause du fait qu'on n'a plus, en fait, de... Enfin, on peut se faire des vrais amis au travail, mais par exemple, moi, je travaille de chez moi. Enfin, comment on fait pour se faire des vraies amitiés adultes, en fait ?
Bah, je sais pas si c'est relié au couple ou au célibat, du coup. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que plus on grandit, plus c'est compliqué de se faire des amitiés. Mais un peu dans ce truc que je disais, bah, en fait, avoir des amitiés, c'est de l'implication de temps émotionnel. Et en fait, si t'accumules des amitiés, bah, t'as moins de temps pour des nouvelles implications. Et donc, pour moi, c'est plus relié pour ça. Et effectivement, si on part du principe qu'en grandissant, de plus en plus de gens sont en couple avec des enfants, etc., bah, ça aussi, c'est une implication hyper forte. Donc, je vois plus ça comme une conséquence du fait qu'on est moins dispo pour des implications, alors que, bah, regarde, par exemple, quand t'es à l'école ou quand t'es étudiant, bah, en fait, t'es à fond dans ces implications-là, et c'est le moment où, justement, tu construis ces relations et que t'as envie de t'impliquer dans plein de nouvelles relations. Donc, moi, je vois plus ça comme, comme une question de disponibilité en quelque sorte, émotionnelle, de temps, tout ça. Parce que au bout d'un moment, bah, on a tous un temps et bah, juste une disponibilité émotionnelle limitée. Et bah, quelque part, si tu veux garder tes anciens potes, enfin, c'est pas non plus aussi automatique. C'est pas parce que tu vas te faire pote avec telle personne que tu vas virer une autre personne de ta vie, hein, évidemment. Mais c'est juste que tu peux pas entretenir des relations à l'infini. En tout cas, moi, ça c'est mon point de vue. Donc quelque part, bah, faut que tu jauges un peu ton implication. Et ouais. Si tu passes déjà toute ta vie avec ta famille et tes enfants et que quatre soirs par mois que t'as de libre, tu vois tes potes que tu connais déjà, forcément ça va être plus compliqué de devenir pote à cette personne.
Ouais, et puis moi aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ces dernières années, j'ai eu des coups de cœur pour des personnes et je pensais que ça allait devenir des super amis. Et en fait, j'étais déçue de ces personnes parce que soit, du coup, il y avait un problème d'implication d'un côté ou de l'autre, soit elles m'ont fait des trucs que j'ai pas aimés, mais j'avais pas trop ça dans mon enfance. Je sais pas si c'est... Parce que je vois le mal partout, mais j'ai été assez déçue.
Ouais. Ouais, ben... Ah, les relations humaines.
Non, mais l'amitié, on n'en parle jamais. On parle tout le temps de l'amour où on a des déceptions amoureuses.
Pour moi, l'amitié, c'est une sorte d'amour, franchement. Bah ouais. Enfin,
il y a aussi des difficultés, quoi.
Et ouais, et moi, franchement, j'ai eu des coups de foudre amicales, je dirais. Enfin, clairement, il y a des gens où je sais que... il y a un peu plusieurs cas de figure, mais par exemple je pense à une amie que j'ai rencontrée au lycée et je sais qu'on s'est rencontrés et très très vite on a été extrêmement potes et ouais, pour moi c'était vraiment un coup de foudre amical et depuis bah, il se trouve qu'on est restés très proches aujourd'hui, mais aussi parce qu'on a entretenu cette relation et que c'était pas forcément évident parce qu'on est deux personnes assez différentes, etc. Et il y en a un, lui pareil, ça a été vraiment un coup de foudre amical. Et pareil, au bout de 5 jours, je me souviens, je me disais, mais j'ai l'impression de le connaître depuis 2 ans. Et au bout, je sais plus, de 10 jours, on s'est dit, on va partir un mois et demi en voyage ensemble. Et ça nous paraissait le truc le plus normal du monde, tu vois. Enfin... Donc ouais, je sais pas. Et après, c'est comme tout. Pour moi, vu que l'amitié, c'est de l'amour, bah, tu peux être déçu pareil, en fait. Tu peux être déçu pareil, tu peux être... Donc ça me paraît pas du tout contradictoire. Mais ouais, en grandissant, je sais pas.
Ou alors, faut peut-être pas s'emballer trop vite, mais comme on s'emballe pas trop vite, bah du coup, on s'implique pas trop et la relation, mais... elle stagne.
C'est peut-être le fait, ouais, qu'en grandissant, vu que les gens sont de plus en plus dans ce truc de couple, que les amitiés, c'est considéré de plus en plus comme accessoire, ce qui est dommage. Mais malheureusement, c'est peut-être du coup, vu que notre société, elle est genre, bah quand tu grandis, t'es un couple et tu fondes une famille, bah les amitiés, c'est de plus en plus genre, allez, c'est un truc de jeune quand t'es étudiant, quoi. Alors que tellement pas.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu entretiens tes amitiés ? Vas-y, concrètement, au jour le jour.
Bah, ouais, alors c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai déménagé seule dans une ville où je connaissais personne, loin de tous mes potes, il y a bientôt 2 ans. 2 semaines avant le confinement, là. Et avant ça, je suis partie quasiment 1 an à l'étranger. Donc en fait, moi, ça fait un bout de temps que j'ai l'habitude d'être loin de mes potes et loin de ma famille. Et donc, je suis très téléphone, je suis très visio. Déjà de base. Bon, oui et non, parce que d'un côté, enfin, parfois, je suis aussi la personne qui répond jamais au téléphone. Enfin, j'ai les deux. Mais voilà, j'essaie de faire vraiment toujours attention, prendre des nouvelles des gens, etc. Enfin, en parlant de ça, je me rends compte que je suis contradictoire parce que je peux aussi ne pas prendre de nouvelles des gens pendant 6 mois. Mais bref. Mais par exemple, tu vois, quand tu finis à l'étranger et que tu es en voyage, tu peux avoir l'impression que les gens te demandent toujours des nouvelles et tu peux avoir l'impression que vu que ce que tu vis, c'est extraordinaire en quelque sorte parce que ça sort de la norme, même si c'est pas forcément plus extraordinaire en fait. Et bah, ne pas forcément avoir le réflexe de demander aux autres parce qu'ils vont te dire, ah, moi, tu sais, la vie banale, rien de spécial. Et moi, j'ai toujours fait attention, par exemple, dans ces moments-là, à dire, bah, si, raconte-moi ce qui t'arrive, c'est tout aussi important, en fait. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez. Que j'accorde pas mal d'importance. Et ensuite, j'ai pas mal la. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est les occasions, ça se crée. Et donc, au-delà de prendre des nouvelles par téléphone, etc., de vraiment prendre le temps de créer l'occasion pour passer du temps ensemble. Donc, bah, dès que j'ai l'occasion, aller voir quelqu'un en week-end et genre vraiment on passe 2 jours ensemble. Même un truc que j'ai fait récemment, j'avais une ancienne collègue que je connaissais pas hyper bien mais avec qui je m'entendais bien, je sentais qu'il y avait un feeling et voilà, elle avait pris un peu de mes nouvelles, elle a déménagé en Allemagne et elle m'a dit bah viens me voir, mais tu sais comme plein de gens peuvent te dire viens te voir et tu te dis bah on se connaît pas tant que ça, ça serait un petit peu bizarre, et j'ai dit bah vas-y, je vais passer 2 jours chez elle. On ne se connaît pas tant que ça. Peut-être que ça sera bizarre, peut-être que ça sera cool, mais tu crées l'occasion. Et tu vois, ça s'est très bien passé. Et en fait, il y a plusieurs fois où j'ai fait ça, où des potes ils m'ont dit « Ah, l'occasion vient me voir ». Et je l'ai fait alors que ce n'était pas une évidence, qu'on ne se connaissait pas si bien que ça. Et à chaque fois, ça crée une occasion, ça crée du lien. Et moi, je suis vachement dans l'esprit créer l'occasion. Et surtout, prendre le temps, en fait. Après, je ne suis pas une pro pour prendre du temps, enfin non plus. Mais quand je peux, j'essaie de le faire, en tout cas.
Ouais. Pour finir sur une note un peu négative, moi, j'ai remarqué que du coup, avec le Covid, j'ai eu beaucoup moins l'occasion de créer ces occasions-là. Et j'ai complètement délaissé mes amitiés et je me suis totalement retranchée sur ma famille parce que l'année dernière, je vivais avec ma sœur et cette année, je vis avec mes parents. Et du coup, je me sens pas du tout seule, mais mes amitiés, j'ai complètement laissé tomber parce que se voir, c'était toujours hyper difficile. Enfin, c'est peut-être une excuse, hein, mais voilà, on peut plus trop faire des week-ends ou alors c'est toujours annulé au dernier moment ou on veut faire telle activité, c'est annulé au dernier moment. On fait plus de soirées. Moi, j'adore faire des soirées.
Ouais, non, ça, c'est clair.
Et puis là, ça commence à reprendre, donc on peut s'organiser des trucs. Mais je sais pas, avant, on pouvait se dire, dans 6 mois, on va partir en vacances. Avec le Covid, on pouvait plus faire ça.
D'où l'idée de créer les occasions et prendre les opportunités quand elles sont là. Mais j'avoue, moi, j'ai un peu le même truc. Par exemple, vu que ma famille est à Paris, donc j'ai un peu des amis d'enfance à Paris, plus vu que j'ai fait mes études à Paris, pareil, et ma famille est à Paris, j'avais un peu le « aller, j'entre régulièrement à Paris, et quand je rentre à Paris, de prévoir de voir du monde ». Et en fait, avec le Covid, plusieurs fois, ça a été annulé d'un moment. Soit j'ai pas pu rentrer, soit je suis rentrée, mais en fait, on pouvait pas faire de soirée, on pouvait pas faire de ci, on pouvait pas... Et du coup, en fait, à un moment, j'ai arrêté. Je rentrais à Paris, puis je prévoyais plus rien, et du coup, je voyais plus les gens. Et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est hyper compliqué. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et qu'on a tous un peu chié. De ne pas pouvoir voir ses amis, quoi. Ou sa famille, ou peu importe.
Hein. Ouais, et puis moi, ça m'a même détachée, en fait. Au bout d'un moment, j'avais même plus envie de voir mes amis.
C'est ça. En fait, vu que t'es passé par plein de fois, t'as essayé, déception, au bout d'un moment, t'es genre, j'ai plus envie d'essayer.
Et puis les relations à distance, c'est cool, hein, le téléphone, les SMS, les visios, mais il y a des sortes de non-dits ou des quiproquos. Enfin, on se comprend moins que quand on est en face à face. On se dit des fois, mais ça se trouve, machin, elle me fait la gueule parce que je lui ai pas envoyé de message.
Mais c'est ouf.
Alors qu'en fait, quand on la voit, c'est comme si c'était, on n'avait jamais été séparés. Et à distance, on s'imagine des trucs. Des fois, oh mon dieu, je lui ai pas écrit depuis 2 semaines, je suis une très mauvaise amie.
Mais c'est pour ça, quand je disais j'essaie de prendre des nouvelles des gens, je suis assez contradictoire dans le sens où je peux passer pas mal de temps à discuter au téléphone. J'aime bien les visios justement pour avoir le visage là-dessus. Vu que moi j'ai été assez isolée pendant le Covid, j'étais très très visio et j'avais des potes, je leur disais écoute, vraiment je préfère la visio que le téléphone, même avec mes collègues en télétravail. Parce qu'en fait, quand t'es très seule, je trouve voir le visage, ça change beaucoup de choses. Mais en même temps, je suis totalement capable de pas prendre de nouvelles de gens pendant 3 mois, 6 mois, de les rappeler. Enfin, j'essaie de pas non plus créer des règles qui peuvent être plus contraignantes qu'autre chose, quoi.
Ouais, moi, ça marche pas trop. Si je les laisse pendant 6 mois, je reviens jamais.
Ouais.
Et on en vient.
Ça dépend des caractères, des relations, de plein de choses, hein.
Et on en vient au sujet des ruptures amicales. J'ai eu pas mal de ruptures amicales ces dernières années et c'est assez traumatisant alors que c'est moi-même qui ai voulu rompre. Donc, j'imagine même pas pour les personnes que j'ai visé, je me sens tellement coupable, mais en même temps, on peut pas se forcer à rester.
Non, mais c'est clair. Mais pour moi, franchement, c'est pas du tout contradictoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'amitié, en fait, c'est une sorte d'amour et c'est une relation individuelle. Et donc, pour moi, tout autant qu'un couple, ça peut se rompre, en fait. Et il y a un moment, quand ça marche plus, il vaut mieux dire les choses en face, arracher le pansement, en quelque sorte. Mais ouais, ça fait mal, hein, toute relation qui se finit. Quand il y a un moment, vous êtes aimé d'amitié, peu importe, hein, mais. J'ai pas trop eu de rupture amicale. Il y a clairement des potes avec qui j'ai perdu contact parce que voilà, ça le faisait plus.
Mais tu leur as pas dit stop.
Non, je crois pas. Je crois pas que ça m'est arrivé. Après, je suis quelqu'un qui évite pas mal le conflit en vrai. Enfin, j'aime bien dire les choses en face, mais j'avoue que j'évite un peu le conflit.
Ouais, moi aussi j'ai perdu contact avec des personnes, mais par exemple, quand la personne me relançait tout le temps, au bout d'un moment, je me suis dit, vaut mieux lui dire la vérité. Genre, en ce moment, j'ai besoin de temps.
C'est vachement mieux de dire ça.
Et en fait, je suis jamais revenue, mais j'ai pas vraiment rompu au sort, en sens littéral. Mais bon, ça. Bon, bref, quand même, l'amitié, c'est génial, tout ça, tout ça. Pour finir l'épisode, il y a les 2 questions traditionnelles. Comment on se connaît ? Est-ce que tu peux raconter aux auditorices comment on en est venu à faire cet épisode ?
Ouais, du coup, moi, j'avais lu un article sur Le Monde, lemonde.fr, qui parlait de ton podcast Sologami. Du coup, bah, j'étais allée écouter ton podcast et ça m'avait pas mal parlé parce que c'est vrai que le célibat, c'est un sujet dont on parle pas tant que ça. Et moi, je me suis vraiment reconnue, pas forcément dans les témoignages des gens, parce que dans le sens où chacun a sa façon de voir le célibat ou de le vivre et c'est pas forcément la même que la mienne, mais sur ce sujet-là et sur le fait que ça soit abordé, ça m'avait pas mal intéressée. Et aussi le fait, bah, j'avais vu que tu faisais ton tour de France à pied et pareil, j'avais fait une longue rando en solitaire, donc ça m'avait aussi, voilà, je m'étais un peu reconnue en toi quelque part, ou en tout cas ton projet m'intéressait, donc j'avais un peu regardé tout ça, tes podcasts, et je m'étais dit, c'est vrai que le célibat et la sexualité, c'est un sujet qui est pas du tout connu, et c'est vrai que j'ai très souvent la réaction quand je dis à des gens que je suis asexuelle, genre ah mais c'est pas possible, ou t'es sûre, enfin bref, j'ai tout le temps des gens qui me disent t'as dû avoir un traumatisme dans ton enfance ou t'as jamais essayé, je suis genre non, en fait c'est une vraie orientation sexuelle et genre renseignez-vous les gars, ou je suis pas prise au sérieux ou quoi, et donc je trouve que on gagnerait tous à plus le connaître, et donc c'est aussi ça qui m'a intéressée, donc bah, bref, je t'ai contactée par Instagram. Et après des petits rebondissements pour qu'on trouve une date, nous voici dans l'appart d'une amie qui nous héberge. Voilà.
En vrai, c'est pas à cause du Covid, c'est juste qu'on n'habite pas du tout dans les mêmes villes.
Voilà.
Bah, écoutez, merci. Pour les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont découvert Sologamie avec cet article du Monde, mais j'en ai pas vraiment parlé dans Sologamie. Donc là, je vais mettre le lien de l'article dans la description de l'épisode. Comme ça, les personnes que ça intéresse pourraient aller voir l'article qui a ramené pas mal d'auditeurices. Merci Camille. Ah oui, deuxième question. Est-ce que tu veux parler d'un autre sujet, d'une recommandation culturelle, d'un projet que tu as à venir ou d'un conseil que tu donnerais aux auditoristes de Sologamie? Enfin, ça, c'est un peu ta question. Si t'as rien à dire, c'est OK.
Ah, j'avais pas spécialement réfléchi à cette question.
Ouais, j'avoue, je devrais prévenir les personnes à l'avance. À chaque fois, je la sors comme ça.
Attends, je réfléchis. Alors, c'est un peu hors sujet, mais je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête. Récemment, j'ai découvert Nina Simone. Voilà, ça n'a aucun sens, mais ça me vient en tête. Et en vrai, c'est une personnalité de ouf. Et voilà. Et donc, si vous voulez aller l'écouter et la découvrir, c'est un conseil. Et en plus, c'est trop cool, ses chansons. Enfin, voilà. Et son histoire personnelle est vraiment cool. Enfin, je trouve que c'est une femme hyper inspirante.
Mais tu te fous de moi, genre, j'ai une passion pour Nina Simone depuis genre 2 jours.
Ah bah voilà.
Comment tu l'as... Ça
j'ai vu un documentaire sur elle, je crois.
Sur Netflix ?
Ouais, voilà. Et ensuite, j'ai écouté tout. En plus, j'aime bien... J'adore sa musique, en plus. C'est une personnalité qui est folle, quoi. Et puis, je trouve qu'elle est hyper inspirante. Et donc, voilà. Voilà, Nina Simone, c'est une personne assez ouf.
Bah ouais, carrément. En fait, moi, mardi, je suis allée voir une pièce de théâtre sur elle. Qui s'appelle Le silence et la peur.
Okay.
Et après, dans la foulée, avant-hier, j'ai regardé le documentaire de Netflix qui s'appelle What Happened, Miss Simone.
Ouais, j'ai dû voir ce documentaire-là.
Et après, j'ai écouté toutes ces musiques que je connaissais déjà, mais du coup, je suis trop passionnée. Et je suis en mode, mais ça
non,
vit.
Et, alors, et en plus, au-delà de sa personnalité, moi, j'adore... je sais pas, j'adore les voix des gens quand ils chantent. Et elle a une voix, mais incroyable de ça. Donc voilà.
Et elle a vécu célibataire une partie de sa vie, donc comme la plupart des gens. Merci Camille, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeuristes, je vous invite à écouter Nina Simone et à voir Nina Simone. Malheureusement, elle est décédée en 2003. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Est-ce que vous aussi, vous tenez à vos amitiés ? Est-ce que tous vos amis sont en couple, comme moi ? Ou au contraire, choisissez-vous des amis célibataires ? Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez désormais suivre le podcast Sologamy sur les réseaux sociaux. J'ai enfin créé les comptes Instagram, Twitter et Facebook. Donc sur Instagram, c'est Sologamy Podcast. Sur Twitter et Facebook, c'est Sologamy tout court. Si vous avez aimé ce 19e épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application de podcast. On peut désormais le faire sur Spotify, mettre des étoiles. Donc si vous êtes sur Spotify, vous pouvez toujours le faire. Et aujourd'hui, je voudrais aussi remercier ma consoeur journaliste Pauline Allion pour son bel article sur l'amour du célibat qui est paru sur un autre site, sur le site Urbania le 13 décembre 2021. Pauline, elle m'a interrogée au sujet de mon célibat et de mon podcast Sologamy. Dans son article, elle évoque aussi Louisa Amara, qui est la créatrice du podcast Single Jungle dédié aux célibataires. J'ai déjà reçu Louisa dans un des premiers épisodes de Sologamy. Bref, je te conseille d'aller lire l'article d'Urbania pour reprendre des forces de célibataire si jamais tu en as besoin. Je mets son lien dans la description de cet épisode avec également l'article du Monde. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. En donnant 3 euros ou 5 euros par mois, par exemple, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Sylvain, Hyacinthe, Emery, Aude, Ruth, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. L'inscription est gratuite. Pareil, rendez-vous dans ma description. Et n'oubliez pas d'écouter l'autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain, le premier mardi du mois, pour un nouvel épisode de Sologamy avec un ou une invitée différente. Au revoir Camille.
Au revoir Marie. Just like the water, falling from the sky.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.